Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio le 13 février 2026, Radio Campus Paris et le Crous de Créteil invitaient des associations étudiantes pour une discussion autour des relations affectives et sur la santé mentale. L'association Nightline se joignait à cette rencontre radiophonique pour présenter leur mission et leurs engagements. Nightline, c'est surtout une ligne d'écoute nocturne, francophone mais aussi anglophone, qui offre un soutien gratuit, anonyme et confidentiel à celles et ceux qui la sollicitent. Dans cet épisode d'Univox proposé par Radio Campus Paris, vous découvrirez une initiative étudiante portée par des bénévoles comme ici, Inès et Amir Shah, une interview menée par Audrey Rodgreg. Bonne écoute!
Univox.
Bonjour d'abord et bienvenue sur l'émission Inès et Amir Shah. Vous pourriez peut-être commencer par nous en dire un peu plus sur cette initiative. Quels sont vos postes, vos rôles respectifs au sein de l'association ?
Du coup, moi, c'est Inès et je suis volontaire en service civique, comme il a été dit. Et je suis dans la team qui s'occupe plus des interventions anglophones. Donc, je vais intervenir sur des stands dans des campus anglophones, etc. Et voilà.
Et du coup, bah, moi, je suis aussi volontaire en service civique, mais aussi je suis un peu bénévole pour la fresque de la santé mentale. Et du coup, notamment le service civique, c'est un peu comme ce que Inès avait dit, on fait beaucoup de stands, on fait de l'aller vers pour essayer de sensibiliser l'association et aussi pour essayer de montrer qu'on existe, parce qu'il y a plein de personnes qui ne le savent pas. On l'a vu nous-mêmes, on était étudiants, donc on ne savait pas que Nightline existait. Et du coup, on s'est dit « Ah !» Donc c'était aussi cool de le partager. Et du coup, bah, c'est un peu ce qu'on fait. On crée des ateliers aussi, des fois, avec eux, pour essayer de présenter les outils qu'on a dans notre asso. Et aussi, bah, du coup, puisque je suis bénévole en fresque de la santé mentale, et du coup, on fait des interventions à propos de la fresque dans les écoles.
Et est-ce qu'il y a des formations et est-ce que vous avez été formée ?
Alors, du coup, oui, pour être bénévole sur la fresque de la santé mentale, il y a une formation. Du coup, en fait, c'est une formation sur un week-end, je crois. Oui, c'est ça, sur un week-end. Et du coup, en fait, on est là avec des personnes qui vont nous former à la fresque de la santé mentale. Donc, notamment le déroulé de l'atelier, notamment la posture à avoir aussi. Et on a eu aussi... du coup, puisqu'on est volontaire en service civique, du coup, quand on est arrivé, on a eu plein de formations en lien avec l'association. Qu'est-ce que c'est la santé mentale, des choses comme ça. On a aussi une autre formation sur Sentinelle. Voilà. Mais du coup, ça, c'est pas vraiment obligatoire, c'est vraiment si vous voulez. Et du coup, c'est vraiment en lien entre... c'est pour repérer, orienter et écouter les personnes en détresse, mais notamment aussi, pour la prévention du suicide. Donc, ça a été fait en collaboration avec le GEPS. Donc il y a ça aussi comme formation et je sais pas si tu veux ajouter autre chose.
Je sais pas si je viens d'avoir un énorme mot d'absence, mais est-ce qu'on a expliqué la fresque de santé mentale, ce que c'est, en quoi ça consiste? Parce que tu l'as mentionné plusieurs fois, oui. Du coup je me demandais, mais qu'est-ce que c'est?
Du coup la fresque de la santé mentale, c'est un peu c'est un atelier de 3 heures. En gros, c'est un atelier d'intelligence collective. Ça se déroule en groupe, notamment de 8 à 10 personnes, et du coup en fait pendant 3 heures, en fait on va parler ce qu'on ne fait pas souvent, autour de la santé mentale. Du coup, on va parler de qu'est-ce que c'est la santé mentale, quelles sont les stratégies pour prendre soin de sa santé mentale et aussi quels sont les facteurs de la santé mentale. Donc, pour essayer d'avoir, en fait, juste pour savoir, ben, en fait, pour essayer de mettre des mots, parce que des fois, c'est un sujet qui est assez vaste et surtout flou. Donc, des personnes ne savent pas ce que c'est la santé mentale et on croit juste la santé mentale, c'est on va bien ou on va pas bien, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et du coup, c'est ça la fresque de la santé mentale.
Et est-ce que c'est gratuit, ouvert à tous ?
Ça va dépendre parce que ça dépend de la structure qui organise cette fresque. Mais quand c'est organisé en partenariat avec des facs ou des écoles, c'est généralement gratuit. C'est la fac, du coup, qui va payer ça. Ça peut être aussi tenu dans des missions locales et à ce moment-là, c'est également gratuit. Mais dans des instances un peu plus rares, ça peut être payant. Si la structure ne paye pas la formation, ce sera aux participants de la payer, quoi. Mais généralement, c'est gratuit et pour tous. Et la formation est également gratuite.
Si j'ai bien compris, c'est surtout les bénévoles. Est-ce que c'est surtout des étudiants et des jeunes, donc pour la ligne d'écoute? Et est-ce que c'est pareil pour la fresque de santé mentale? Est-ce que c'est surtout des étudiants qui participent? Et si c'est le cas, pourquoi pensez-vous que c'est important que les bénévoles soient jeunes et des étudiants plutôt que des professionnels de santé, par exemple?
Alors, sur la ligne d'écoute, c'est plus conseillé d'être étudiant. Du coup, bah, pourquoi en fait chez Nightline on a vraiment un peu ce mantra entre guillemets de du pair à pair. Donc en fait, c'est tenu par les étudiants, comme tu l'as dit au début, et pour les étudiants. Du coup, on part du principe qu'en fait, quand un bénévole, enfin quand quelqu'un appelle un étudiant, du coup souvent, et qui tombe sur un bénévole qui est lui-même étudiant, bah, du coup va peut-être mieux se sentir compris, et peut-être aussi la personne qui va aussi, du coup, le bénévole écoutant, il va plus se sortir mieux armé pour l'aider et pas se sentir qu'est-ce que je peux faire, je comprends pas ta situation. Du coup, en fait, ils peuvent avoir beaucoup plus d'expérience à partager. Et du coup, c'est assez cool. Et pour la fresque de la santé mentale, bah, en fait, c'est un peu le... Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas étudiants et qui veulent aussi s'engager pour la santé mentale. Donc, en fait, on a créé aussi ce bénévolat. Et on n'est pas forcément obligé d'être étudiant. Mais si on est engagé pour la santé mentale et qu'on veut faire quelque chose à notre échelle, bah, on peut aussi s'engager.
J'avais une question par rapport au trauma vicariant, qui est le trauma qu'on peut avoir si on est exposé à des histoires traumatisantes. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous traitez entre vous dans l'équipe, de se dire, ben, à un moment donné, à force d'écouter des histoires qui peuvent être compliquées, comment nous, après, on n'est pas juste réceptacle et comment on arrive à le partager pour pas garder ça en nous?
Justement, les bénévoles de la ligne d'écoute sont suivis par des psychologues. Il y a une supervision qui est organisée avec un psychologue pour partager les expériences et du coup les histoires qui peuvent être un peu difficiles. Et il y a aussi des psychologues qui sont toujours joignables en fait le soir, s'il y a vraiment des urgences et que les bénévoles
en astreinte peut-être, qui sont sur astreinte, oui. Et du coup qui sont joignables toute la nuit.
C'est ça. Et du coup, qui peuvent être joignables s'il y a vraiment des situations urgentes.
Bon, en fait, c'est pas vraiment un engagement. Donc, en fait, si une fois que le bénévole il est formé, il n'est pas obligé de faire les permanences tout le temps. Parce que des fois, il est étudiant, des fois, il y a des périodes de partiel où il ne peut pas. Et même s'il se sent beaucoup, on a vraiment cette règle de, en fait, il ne peut pas faire plus de 3 permanences dans le mois. Donc, il peut faire moins, mais pas maximum. Donc, c'est un peu possible pour le protéger. Et en sachant aussi que pendant les permanences, bah, c'est un référent qui est bénévole, mais qui est plus expérimenté, qui est là et qui encadre. Donc même à chaud, si jamais il a eu un appel vraiment à chaud, il peut tout de suite partager avec son référent ou même entre d'autres bénévoles, parce qu'en fait, ils sont 6 normalement dans la permanence, donc il peut se retourner vers un autre bénévole et lui dire « Ah oui, mais là, j'ai eu chaud ». Donc en fait, ils sont très très bien entourés.
On part avec une chanteuse assez connue qui est assez tendance, c'est Théodora qui vient nous rejoindre et qui nous chante « Des mythos ».
Je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir, oui, y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou. Cœur rebelle et sans cahier. Ça compte pas, appelle mes encahiers. Je flexais déjà sans carrière. Ce type non, bah ouais, c'est carré. Comme maman, j'aime les pierres taillées.
Dis-moi tout, dis-moi tout. Il était chelou, un retour, dis-moi.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On va vous lire un témoignage d'une étudiante.
C'est Odd qui est au micro.
Voilà.
C'est comme si c'était resté dans le rêve de la nuit. Au beau matin, plus rien. J'en ai vécu des soirées merveilleuses à vagabonder dans les rues de Paris, avec de charmants jeunes hommes. On buvait des verres, on se saoulait, on riait, et ils me confiaient les moindres détails de leur vie, comme s'ils m'entraînaient au-delà de cette nuit. Et puis, comme s'ils avaient pris ce qu'ils voulaient, plus rien. Le lendemain, pas un bisou, ou même un check, je sais pas. Parfois une bise rapide et gênée, ou au contraire, un câlin très tendre. Un de ceux qui presque nous trompe, nous fait oublier le silence qui va suivre. Oui, parce que tu connais, nous les femmes, on s'imagine plein de trucs, nanana. Oui, on est juste humaines. Quand on vit quelque chose de beau et d'intense, le cerveau a envie de le reproduire. C'est foutrement naturel. Alors je me suis créé des règles. Si le lendemain, à 17h, je n'ai pas de message, c'est soit 1. Il a décidé de disparaître, ghosting total, ne se rappelle plus de qui je suis, amnésie complète. 2. Il n'a pas eu le temps. Ou alors, il n'est pas très téléphone. Donc, à 17h, j'envoie un message. Enfin, c'est ce que je faisais au bout d'un moment. J'ai laissé tomber. C'était chouette hier, tatatitatata. Parfois, aucune réponse, et là, c'est acté. Et parfois, j'ai un peu de chance. Oui, c'était pas mal. Pas mal ? Mais tu me fais une critique TripAdvisor ou c'est quoi ? C'est quoi le délire ? Ou encore, on se recroise à l'occasion. Ouais, donc t'en as rien à foutre. Et pourtant, je sais que je n'ai rien imaginé. Je connais les anecdotes de ton enfance, ta première cicatrice, ta pire bêtise d'adolescence. Je sais que cette soirée était ouf. Je sais que nos deux mondes se rencontraient pour la première fois. Ce n'était pas rien. Mais ce silence, il est humiliant. Comme si j'étais la seule à vivre ce moment, comme si tu effaçais mon existence. Pourquoi tu m'as emmenée dans ton lit si tu savais que ce serait juste pas mal ? Pourquoi jouer à ce jeu ? Apparemment, des sociologues parlent d'impossibilité de s'engager dans nos sociétés modernes, même si on n'en demande pas forcément autant. La libération sexuelle a créé de nouveaux codes et surtout une nouvelle manière pour l'homme de dominer. Il ne domine plus dans le foyer, il domine sur le marché sexuel. Et alors ? C'est une accumulation de choix si grande que c'est impossible de choisir. Bah ouais, l'amour respecte les bonnes règles du capitalisme. Mais bon, j'ai encore espoir. Je suis de celles qui aiment l'amour, même sans l'avoir rencontré.
Est-ce que vous voulez réagir à cette histoire ? On parle de
ouais,
ghosting, en fait.
Ouais, peut-être,
de ghosting. Est-ce que c'est une situation que vous rencontrez ?
Les bénévoles écoutants, ils ont aussi cette thématique de... Enfin, ça peut arriver, on appelle le fait de ghosting. Et même nous, sur des stands, quand on présente l'asso, bah, en fait, puisqu'on... On n'est pas encore, même si on voudrait avoir beaucoup plus de bénévoles, mais des fois, bon, on ne peut pas aussi répondre. Et du coup, on a aussi ce... Moi, j'ai vécu ça en stand. Et du coup, quand j'ai présenté l'asso et qu'ils m'ont dit, bah, j'ai appelé et vous m'avez pas répondu. Du coup, je me suis sentie un peu ghostée. Et du coup, j'étais en mode, ah, oups. Et du coup, j'ai essayé de dire qu'en fait, dans le sens, bah, j'ai essayé de rediriger vers d'autres associations, des choses comme ça. Et j'ai essayé aussi de comprendre de, bah, pourquoi tu t'es sentie ghostée et t'as pas... peut-être penser que ah mais ils ont d'autres appels, des choses comme ça. Et du coup c'est vrai que c'est une situation assez compliquée et que même nous dans nos vies de tous les jours on sent cette chose de ghosting. Et du coup dans les thématiques d'appels il y a souvent ça qui revient et du coup c'est pour ça qu'ils nous appellent et on essaye mais vraiment d'être un peu de répondre à tous les appels, mais c'est un peu compliqué.
Et quand ils arrivent à vous joindre, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent?
Les thématiques qui reviennent le plus, c'est les relations. Donc au sens large, ça peut être les relations amoureuses ou les relations entre pères ou même avec la famille. Il y a aussi l'estime de soi qui revient beaucoup parce que comme c'est des étudiants, la thématique... Il y a aussi les études qui viennent beaucoup. En fait, toutes ces trois thématiques-là sont souvent très liées. Et du coup, bah, les études vont venir influencer l'estime de soi, etc. Mais oui, les relations sont très mentionnées, en tout cas.
Et comment est-ce que vous interprétez le fait que ces thématiques reviennent souvent, dans le sens où pourquoi est-ce que dans un monde où on est plus connecté que jamais, autant de jeunes se sentent seuls, délaissés, isolés ?
Peut-être que, en fait, on est connecté, mais peut-être qu'on utilise aussi peut-être c'est le manque d'information de comment je peux aller au contact. Et aussi, je pense que déjà, si on se sent un peu isolé dans la vie de tous les jours et de faire la démarche derrière un écran, c'est encore compliqué. Et je pense aussi que peut-être c'est dû à de juste comment utiliser, notamment Internet, notamment le fait qu'on est connecté à bon escient pour créer du contact, pour aller vers les gens. Et souvent, on ne pense pas trop à ça. On pense plus à scroller sur Instagram, à liker des posts. Et du coup, après, on se sent mieux. Mais je pense personnellement que c'est aussi de... En fait, concrètement, comment je fais pour, si moi, je suis là et je veux créer un lien. Et aussi, est-ce que je vais me faire ghoster? Est-ce que ça fait, entre guillemets, un peu pitié, des choses comme ça? Du coup, il y a beaucoup de stéréotypes et de stigmates et de freins à faire cet aller vers. Et aussi, on ne sait pas aussi comment faire ou aller chercher l'information, des choses comme ça. Donc peut-être un manque de visibilité et aussi une peur d'être jugé, de savoir comment on fait cette démarche.
Et justement, vous, en tant qu'étudiante jeune, cette peur d'être jugée, est-ce que vous la ressentez aussi forte avec les réseaux? Est-ce qu'au quotidien, c'est un truc que vous ressentez?
Du coup, je ne suis plus étudiante, mais je suis jeune.
Mais tu es encore jeune.
Oui, bon, oui, je dirais que je la ressens. C'est pour ça que je poste très rarement de contenu sur les réseaux sociaux. Je préfère vraiment parler avec mes amis, etc. Enfin, des amis que je connais vraiment dans la vraie vie, je dirais. Mais du coup, cette peur d'être jugée est présente, effectivement. Après, est-ce que je fais quelque chose pour pallier ça? Pas vraiment. Mais en tout cas, elle est présente. Je sais pas si t'as quelque chose à dire.
Je pense que oui. En tant que et étudiant et aussi ancienne étudiante, on a toujours surtout cette peur d'être jugée, même au sein de notre groupe d'amis, bah notamment un peu personnel, mais bah du coup moi je suis en service civique mais j'ai pas eu de master, et je sais que rien que l'annoncer que j'ai pas de master, bon, à mes amis du coup, je me suis dit, ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ça va être pris, et l'annoncer encore plus à la famille, ça a été un peu compliqué. Donc en fait oui, on a toujours cette peur constante d'être jugée, mais pas forcément des proches, mais aussi en fait avec nos amis de tous les jours. Du coup c'est un truc assez présent.
Et
Donc plus on est connecté en fait, et plus on est déconnecté. C'est un petit peu.
Oui.
C'est ce qui se passe au final, parce qu'on a l'impression que les générations d'avant, ils n'avaient pas les réseaux et c'était peut-être beaucoup
boomer.
Plus simple de. Excuse-moi,
vraiment,
je suis le plus vieux de la table.
Avant.
Non mais après moi j'ai grandi aussi avec le téléphone. Et cette peur des réseaux, on a vu des tendances aussi à se déconnecter, à prendre les téléphones sans les réseaux. Est-ce que c'est un truc au quotidien qui se fait de plus en plus se déconnecter?
Personnellement, j'essaye de le faire. J'essaye un peu de me déconnecter des réseaux ou si je me connecte, de le faire moins longtemps que d'habitude. Je pense que c'est nécessaire de se... En fait, rester sur les réseaux, c'est aussi beaucoup scroller, beaucoup consommer de médias, etc., mais de façon très passive. Et je préfère le faire de façon un peu plus... actifs, me divertir, mais en faisant des activités manuelles, etc. Donc, vraiment, essayer de me détacher des réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'essaye de faire personnellement.
Et on parlait juste avant du fait de sentir jugé sur les réseaux.
Ouais.
Est-ce que vous pensez que cette préoccupation de l'image de soi, qui est plus prévalente aujourd'hui que la période pré-réseaux sociaux, fait que les liens sociaux deviennent un petit peu brouillés par ça et que ça clash un petit peu avec des liens sociaux authentiques et,
Je pense que oui. Du coup, en fait, oui, ça brouille un peu les réseaux sociaux. Notamment, en fait, le truc, c'est que bah, des fois, on peut... Enfin, le fait de laisser des commentaires, des fois, il y a des commentaires... Enfin, en fait, quand on publie des choses aussi, on ressent des commentaires, des choses comme ça, ou même de savoir qu'est-ce qu'on publie, comment on publie. Il y a aussi cette réflexion.
Merci beaucoup pour ces témoignages. C'était Inès et Amirsha de Nightline.
Est-ce qu'on rappelle quand même les horaires?
Bien sûr, les horaires de la
ligne. Du coup, nous, les horaires de la ligne, c'est la nuit de 21h à 2h30 du matin. On est aussi disponible par chat. Et aussi, on a une ligne anglophone. Donc, n'hésitez pas.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Univox en la compagnie d'Inès et d'Amirsha de l'association Nightline. Une interview menée par Audrey Rodgreg, animée par Farad Ball et Hugo Traversier, réalisée par Delila Cherich, à la technique Julie Adlaoui et Gustave Collet, animation et montage Marine Calmes. Univox.